Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
On parle de dynastie lorsqu'un club ou une équipe domine son sport pendant une période relativement longue. S'il y a forcément une part de subjectivité, il est des dynasties qui ne souffrent d'aucune contestation. Laquelle est la plus mythique, celle qui nous a le plus fascinés, ou celle dont on garde un souvenir impérissable? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort, et nous allons nous interroger aujourd'hui sur la plus grande dynastie de l'histoire du sport. Pour m'accompagner, quatre journalistes de la rédaction d'Eurosport, Laurent Vergne, Martin Mosnier, Cyril Morin et Maxime Dupuis. Salut messieurs.
Salut Adrien.
Bonjour à tous.
Salut.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, en un mot, quelle équipe avez-vous choisi ? Maxime ?
Alors écoute, moi quand tu m'as invité, Adrien, il y a quelques semaines pour faire cette émission, je me suis dit dynastie, j'ai tout de suite pensé aux États-Unis. Dynastie, j'ai tout de suite pensé à une série avec John Collins, mais je me suis dit non, finalement, on va plutôt aller vers le basketball et j'ai choisi les Chicago Bulls, évidemment, entre 91 et 1998, la dynastie Jordan.
Cyril, qui as-tu choisi ?
Alors moi, ma dynastie, elle est un peu plus courte, mais c'est le Barça de Pep Guardiola qui aura aussi un petit peu irrigué la grande Espagne des années 2010.
Martin ?
Moi, quand tu parles de dynastie et de mythe, pour moi, il me semblait évident qu'il fallait parler du Brésil 58-70, dynastie couronnée de 3 Coupes du Monde.
Et enfin, Laurent ?
Ouais, moi, je vais parler un peu de sport français quand même, parce que ça va manquer un peu. Je vais parler de rugby avec le Grand Béziers des années 70-80, de 70 à 71 à 84 exactement.
Très bien. Cyril, on va commencer avec le football, avec le Barça de Pep Guardiola, qui a tout raflé en l'espace de 4 saisons.
Ouais, bah même d'une saison, hein. Il suffit de prendre la première, 2008-2009 et ce fameux sextuplé. Moi, c'est le choix du cœur. C'est l'adolescent qui regarde la télé et qui s'enthousiasme devant une équipe ultra, ultra cohérente, ultra sexy, avec des principes de jeu magnifiques. Et voilà, le Barça de Guardiola, c'est un petit peu un scénario hollywoodien, c'est-à-dire que c'est le jeune qui vient imposer ses idées, qui arrive sans grande référence et qui devient le plus grand entraîneur peut-être de l'histoire, ou en tout cas du 21e siècle. C'est la révélation de Lionel Messi, c'est les meilleurs seconds rôles. Il y a des super méchants avec Mourinho, mais même l'équipe mythique de Sir Alex Ferguson à Manchester United. Donc voilà, et puis c'est in fine quand même ce qu'on retient de ce Barça-là. J'aime pas du tout catégoriser, mais c'est un petit peu l'idée du beau et presque du bon football. C'est-à-dire que c'est les bons principes, les bons préceptes qui ont uni cette troupe-là et qui a fait que cette équipe du Barça était aussi marquante et aussi enthousiasmante à voir jouer. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir revu une équipe jouer aussi bien au football collectivement.
Tu parlais des adversaires du Real, de Manchester. Quelques chiffres sur les titres remportés par cette équipe. C'est 13 titres, je crois, remportés en 4 saisons, 3 Ligas, 2 Ligues des Champions. C'est colossal.
Ouais, et effectivement, quand on parle de dynastie, normalement, il faut pouvoir gagner. La C1 est un juge de paix. Ils n'en gagnent que 2, entre guillemets, en 4 années. Mais leurs échecs sont aussi presque symboliques que leur succès. Moi, je me souviens du match contre Chelsea où c'est complètement improbable. L'Inter, on vous fait même pas un dessin, mais ça participe au mythe José Mourinho. Donc, quand on pense à une dynastie, il y a un côté mythique, il y a un côté légende. Et même dans ces défaites-là, le Barça aura réussi à être grand et à être un grand perdant, entre guillemets.
Messieurs, vous aussi qui suivez le football au quotidien, c'est une équipe qui vous a marqué, ce Barça de Guardiola ?
Bah oui, évidemment, il peut pas en être autrement. C'est éminemment subjectif de dire qu'une équipe joue bien ou ne joue pas bien. On peut aimer, on ne peut pas aimer. Mais là, on est obligé au moins de s'incliner devant ce que Guardiola a fait. Parce que Guardiola, il est arrivé avec une page presque blanche, on va dire presque blanche, parce qu'évidemment, il y avait quand même le Barça qui avait gagné la Ligue des Champions 2 ans avant. Mais c'était une équipe en reconstruction. Il a décidé d'y aller à fond avec ses préceptes. Et il l'a fait. Et c'est formidable. Et ce qu'il a fait, évidemment, ça. On voit aussi la marque d'une dynastie, d'une équipe, l'impact qu'elle a sur le jeu. C'est l'impact aussi qu'elle a eu sur l'équipe d'Espagne, parce que c'est presque aussi sa continuité, les 3 titres de l'Espagne en 2008, 2010 et 2012. Et tu parlais, Cyril, des défaites, justement. Et je trouve qu'aussi, une dynastie, alors la mienne, ça ne va pas marcher pour le coup, pour ça, mais elle se définit aussi par ses défaites et par l'effort qu'il faut faire pour l'abattre. Alors, Chelsea 2012, parce que là, c'est vraiment, c'est l'exact contraire, l'exacte caricature contraire. Et ce que fait Chelsea pendant 180 minutes est exceptionnel. Et là, je pèse mes mots. Et aussi, il faut quand même le rappeler, en 2010, ils ne vont pas en finale, parce qu'il y a le match retour. Mais il faut quand même rappeler qu'au match aller,
2009.
2009, pardon, non, contre l'Inter.
Non, ah, tu parles de
2010,
l'Inter, je croyais que tu
ouais.
parlais du premier, la première demi contre Chelsea.
Ouais, non, justement, contre l'Inter, il faut rappeler quelque chose, c'est que le match aller se déroule dans des conditions difficiles. Ils perdent 3-1 à Milan, mais ils ont été obligés de faire le voyage en car. Souvenez-vous, c'était l'histoire du volcan qui avait
Ouais.
rendu impossible le
Islandais.
voyage en avion. Donc, on peut aussi imaginer que dans des conditions normales, sans retirer aucun mérite à l'Inter Milan, ce se serait passé différemment. Donc,
Oui,
oui,
s'il te plaît.
ouais, je savais que tu réagirais. Donc, voilà, non, mais voilà, cette équipe. Si j'ai un regret, mais c'est peut-être finalement ce qu'il fallait, c'est qu'elle n'a pas existé assez longtemps. C'est-à-dire que Guardiola, c'est une forme d'intelligence d'accepter d'arrêter, de dire là, c'est terminé, il ne faut pas aller plus loin, parce qu'après, je vais peut-être gâcher l'héritage. Mais c'est quand même un petit regret, parce qu'on aurait presque eu envie qu'il tire jusqu'au bout, le potentiel de cette équipe.
Ouais, et pour moi aussi, la marque du dynastie, c'est après très très longtemps, et même encore aujourd'hui, hein, c'est une équipe au style qui n'arrive pas à être imitée. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'imitations. Personne n'est arrivé à la cheville de cette équipe-là. Il y a eu beaucoup de caricatures de ce Barça-là, et ça montre à quel point ça a fondé une époque. Ça a fondé, si on parle du football du 21e siècle, des identités de jeu. Cette équipe de Guardiola, c'est la première qui vient en tête. Et ce qui est drôle, c'est que ça aussi, ça renoue, ça relie l'héritage du Barça de Cruyff. Il y a tout un héritage là-dedans, et que ce soit au FC Barcelone en plus, qui est quand même une des capitales du beau jeu en Europe, bah, je trouve que c'est un côté hyper, hyper romantique, quoi.
Et c'est vrai que quand on parle, Laurent le mentionnait tout à l'heure, la demi-finale, il y a aussi des grandes histoires, des grands matchs. Le nombre de matchs marquants, il y a ce match à Chelsea, mais toutes les finales, enfin les deux finales face à Manchester United aussi. Mais il y a aussi toutes ces petites anecdotes à côté qui font le sel un petit peu des grandes dynasties. On en parlera tout à l'heure avec les Bulls, mais toutes les petites anecdotes de vestiaire. Voilà, la discussion entre Guardiola et Messi, quand Guardiola décide de placer Messi en numéro 9, enfin en faux numéro 9, enfin, tous ces petits détails, ces petites histoires qui ne font pas partie de la grande histoire, mais qui viennent s'y greffer, rajoutent encore un potentiel de légende à cette équipe-là, quoi.
Moi, j'ai pas grand. Oui, vas-y, Maxime.
Non, j'allais juste rajouter là-dessus. En plus, ce qui est génial, c'est le laboratoire d'idées.
C'est ça.
C'est que si vous vous souvenez bien, juste avant sa dernière saison, il me semble, il n'osera jamais le faire, Guardiola, mais il songe très fort à jouer avec seulement 2 défenseurs en phase offensive. Bon, il ne l'a jamais fait, mais il l'avait tenté. Donc, il y avait aussi ce côté révolutionnaire qu'on trouve aussi dans les dynasties, de tenter des choses différentes que les autres n'ont pas fait.
Je vais en parler. C'est marrant que tu parles de révolution parce que pour moi, c'est vraiment un des éléments importants aussi dans une dynastie. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que pour moi, cette équipe du Barça, c'est presque plus une dynastie. Il y a la dynastie en termes de palmarès qui est assez courte, de vraie domination sur le football espagnol européen. Mais en revanche, comme vous l'avez dit ou laissé entendre, la dynastie en termes, je ne sais pas si on peut parler d'idéologie, parce que le mot est un peu à connotation négative, mais. Je trouve que ça perdure de plus longtemps. Alors là, aujourd'hui, le Barça est vraiment en difficulté, mais effectivement, ça fait même écho à une identité, à une culture de ce club. Alors le Barça n'a pas toujours joué comme dans les années 70 ou comme dans les années 90 avec Cruyff ou comme dans les années 2000-2010 avec Guardiola. Mais quand même, je pense que ça fait partie de l'identité de ce club. Et peut-être qu'avec un autre entraîneur et d'autres joueurs dans 5 ans, 10 ans ou 30 ans, je ne sais pas. On retrouvera peut-être plus facilement à Barcelone qu'ailleurs ce type, ce jeu-là, en tout cas.
Mais moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les difficultés du Barça s'expliquent aussi par son incapacité à se sortir de cet héritage-là.
Ouais, c'est le revers de la médaille, mais...
Il est tellement puissant, c'est une identité tellement puissante qu'aujourd'hui, le Barça, bah, voilà, ils n'arrivent pas à faire leur nouvelle révolution. Et c'est un peu les lambeaux de cette ère Guardiola qui plombe aujourd'hui le Barça.
Très bien, messieurs, sur le Barça. Il y a une autre dynastie qui a marqué également. C'est vrai qu'il y a des dynasties qui viennent plus facilement en mémoire que d'autres. Le Barça de Guardiola, c'en est une. Les Bulls de Chicago, dont va nous parler Maxime, en sont une autre également. Chicago Bulls, Michael Jordan, les années 90, c'est révolutionnaire.
Bah, disons que Dynasty, Chicago Bulls, Michael Jordan, on est quasiment sur des synonymes. Voilà, les mots vont très bien ensemble. Et ce que je retiens, moi ce qui m'a fasciné, parce que ça correspond aussi à mes années d'ado, c'est le côté implacable de cette équipe. C'est-à-dire que c'est une dynastie immaculée. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'elle a su allier le jeu et le résultat. J'aurais pu parler des Celtics, par exemple, des 11 titres dans les années 60. Ça, c'est exceptionnel aussi. Mais on est sur une NBA de l'ancien temps. Il n'y a que 14 équipes. Ce n'est pas exactement pareil, même si à l'époque, l'exploit est évidemment monumental. Ce qui est fort avec les Bulls, c'est que déjà, c'est une construction. Ce qui est beau aussi, c'est ça, c'est ce qui avance. C'est-à-dire que là, on avait l'exemple de Guardiola avec c'est pas une combustion spontanée, mais d'un seul coup, ça prend et ça part directement. Il faut voir tout ce qui a été la difficulté de construire les Bulls dans les années 80, les doutes de Michael Jordan, qui au début des années 90, est un très, très, très bon soliste, mais qui n'a rien gagné et ça pèse sur lui et même sur son héritage à venir. Et puis, il y a ce début des années 90. Ce qui est fort aussi, c'est que ça tombe à une période où, à mes yeux, la NBA est la plus dure. C'est-à-dire que la NBA est en train de changer, pour certains, pour de mauvaises raisons et pour qui va dans un mauvais chemin. C'est-à-dire que l'âpreté des combats est complètement folle. Sortir de la conférence Est dans les années 90, c'est devoir taper Reggie Miller et les Pacers et surtout avoir les Knicks en face, qui sont une équipe assez… ça n'a pas la violence des Pistons, mais qui est quand même d'une rudesse absolue. Et puis, ce que j'aime aussi dans la dynastie Jordan, déjà, c'est qu'elle se fait en deux fois, c'est-à-dire qu'il y a les trois premiers titres, le premier three-peat, et le second après son retour quand il est parti jouer au baseball. Donc, ça dit aussi long de la force de l'équipe, parce qu'en gros, il y a 2 ans de creux, et dès qu'il revient, les Bulls réussissent à l'époque la meilleure saison de l'histoire avec 72 victoires, pardon, ça ferait beaucoup, 72 défaites. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est que le symbole, c'est que Michael Jordan fait à peu près tous ses adversaires. Il a commencé par Magic Johnson en 91 et les Lakers, c'est-à-dire que c'est le passage de témoin des années 80 vers les années 90. Ensuite, c'est Clyde Drexler et Portland pour les Bulls. Drexler, c'est un peu l'homme qui a empêché Jordan d'aller à Portland parce qu'il avait été drafté avant lui et que Portland ne voulait pas 2 arrières. Qu'est-ce qu'il fait? Il le bat en finale. Après, c'est Charles Barkley et les Phoenix Suns en 93. Pour une finale monumentale. Et puis après, il y a la rupture. Il revient du baseball. Il retrouve Pippen. Il retrouve Phil Jackson, qui est aussi le grand architecte de tout ça. Et puis derrière, c'est Seattle, Kemp et Payton en finale qui sont battus. Et puis pour finir, 2 fois, Malone et Stockton. Donc, c'est un peu le super-héros qui aurait battu tous les super-vilains.
On peut ajouter Isaiah Thomas et Patrick Ewing. Voilà.
Voilà, exactement.
Même si c'était pas en finale, puisqu'il était dans la même conférence.
Mais... Il y a toute cette. En plus, dans le storytelling, c'est lié aussi au sport américain, mais il y a tout ça qui fait que la dynastie est fantastique. Parce que Thomas, c'est celui avec les Pistons qui l'empêche d'arriver à ses fins à la fin des années 90, et il va les fesser au début des années 90 pour devenir champion enfin. Donc voilà, moi, ce que j'aime, encore une fois, je le répète, c'est le côté la perfection. J'ai rarement vu une telle perfection. Quand on voit comme il est difficile de gagner 3 titres de suite en NBA, lui, il l'a fait. Enfin, lui, je suis désolé, voilà, c'est un lapsus, c'est Jordan, c'est les Bulls. Ils l'ont fait 2 fois de suite avec une rupture au milieu. Et cette rupture au milieu, elle est marrante parce que alors, ça va peut-être aller à l'encontre de ce que je racontais jusqu'ici. C'est évidemment les Houston Rockets qui ont remporté les 2 titres qui étaient entre les deux dynasties des Bulls. Et ce qui est drôle, c'est que les 3 saisons où les Bulls gagnent leurs 3 premiers titres, contre les Rockets, ils avaient un bilan négatif de une victoire et 5 défaites. Donc, ce qui est drôle, c'est de se dire peut-être que finalement, Jordan a coupé au bon moment parce que contre les Rockets, justement, ces Bulls-là n'avaient pas toujours la solution. Donc, mais ça sera,
pas d'accord.
Ben, ça restera toujours un grand what if, c'est-à-dire, et s'ils les avaient rencontrés en finale, qu'est-ce que ça aurait donné? Mais ce qui est drôle, c'est même il y a des acteurs de l'époque qui l'ont sous-entendu dire ben, contre eux, on n'avait pas de solution parce qu'évidemment, il y avait Olajuwon dans la raquette.
Laurent, tu n'es pas d'accord?
Non, bah, comme Maxime, c'est un what if, donc de toute façon, personne ne peut avoir raison ou tort sur ce point-là, mais il faut quand même rappeler que la saison 93-94, donc la première des deux où Jordan n'est pas là, les Bulls terminent quand même avec 55 victoires et 27 défaites, ou 57-25, je ne sais plus.
57, je crois.
Voilà, ils sont éliminés par les Knicks, mais qu'au septième match, ils ont quand même trois joueurs qui sont All-Star Game. Pippen évidemment, Horace Grant et B.J. Armstrong, et puis il y a Tony Kukoc qui est arrivé. Moi, si j'ai un regret de cette dynastie des Bulls, c'est vraiment cette année 93-94 qui pour moi aurait été la plus forte équipe des Bulls, parce que si vous comparez avec 93 qui est la fin du premier flip-it, Pippen est toujours et même plus fort que jamais. Il termine deuxième ou troisième au classement du MVP quand même. B.J. Armstrong et Horace Grant sont plus forts que jamais. Tony Kukoc arrive en sixième homme. Et rajouter Jordan à ça, je pense que cette équipe, la barre des 70 victoires, à mon avis, elle l'aurait atteint cette année-là. Donc ça, c'est mon plus grand regret. Après, est-ce que les Bulls auraient été 8 fois champions de 91 à 98 si Jordan n'avait pas pris sa retraite ? J'en sais rien, mais je ne pense pas, parce que je pense que Jordan aurait coupé un moment ou un autre. Et s'il ne s'était pas arrêté en 93, les Bulls auraient peut-être gagné 4, 5, 6 fois de suite. Mais je pense qu'à un moment donné, Michael Jordan se serait quand même arrêté. Pour moi, les Bulls, c'est 4 personnes, cette dynastie. Évidemment, Michael Jordan, Scottie Pippen, les deux seuls joueurs qui ont été des 6 titres. Phil Jackson, évidemment, le coach des 6 titres. Et Jerry Krause, qui a été beaucoup décrié, beaucoup moqué, y compris par Jordan, mais qui, pour moi, Maxime parlait de la construction de cette équipe. Alors, il y a Jerry Reinsdorf, évidemment, aussi, mais...
Qui est le président, Jerry Krause, qui est le general manager,
ouais, exactement.
Et le président, après.
Mais le côté opérationnel, c'était quand même davantage Jerry Krause, et pour moi, il est déterminant dans la construction de ce groupe. Évidemment, il a aussi été déterminant dans sa déliquescence, sa dislocation, ouais, c'est le mot que je cherchais, merci, en 98, mais il ne faut pas l'oublier quand même, Jerry Krause. Et puis voilà, pour le reste, ça coïncide aussi avec l'âge d'or de basket américain et de la NBA, la Dream Team en 92, et Jordan en était le personnage principal, mais c'est toute une époque aussi. Je pense que c'est la première dynastie. Avant, il y avait les Lakers et les Celtics dans les années 80, les Pistons aussi, mais la première équipe NBA en audiovision, pour moi, c'est les Bulls. Quoi.
C'est la
Ouais. Non, mais ce qui est vrai, c'est que alors moi, j'ai suivi ça de plus loin et je suis plus jeune aussi, mais ce qui me frappe, moi, toujours autant, ce qui me frappe toujours autant, c'est on parlait d'héritage tout à l'heure. Quel grand joueur aujourd'hui de basket et de NBA ne cite pas les Bulls et Jordan en modèle, enfin, c'est devenu un peu la figure tutélaire du basket, tout simplement. Et c'est peut-être l'équipe qui dépasse le plus le cadre propre de ce sport, dans tous les noms qu'on a cités là.
Ouais, pour moi, c'est la dynastie ultime aussi, parce que c'est devenu des icônes pop, en fait. Jordan, les Bulls dans les années 90. Si tu penses années 90, tu penses Jordan et tu penses Bulls. Moi, quand j'étais gamin, je voulais ma casquette des Bulls, et je pense que tous les gamins voulaient leur casquette des Bulls, voulaient leur survêt à pression des Bulls, tu sais, que tu pouvais décrocher jusqu'au bout, là, et te retrouver en calbute dans la cour de ton collège. C'est vraiment des icônes pop. Et pour moi, au-delà des résultats sportifs, parce que je pense qu'il y a des équipes, si tu prends d'autres sports, qui ont gagné plus de titres, qui ont eu une influence, enfin qui ont eu une période de domination plus grande. Mais les Bulls et Jordan, bah, comme l'a dit Laurent et comme l'a dit Cyril, ça dépasse le basket et ça dépasse presque le sport aussi, ouais. Quasiment le sport. Ce sont des icônes absolues. Et c'est pour ça que pour moi, c'est peut-être la dynastie ultime.
On m'a dit, Martin, que tu étais plutôt casquette Seattle Supersonics, non ?
Ouais, moi, c'est vrai que j'étais fan de Peyton. Ouais,
parce qu'il y avait du vert, quoi.
Parce qu'il y avait du vert, voilà. et parce que j'avoue que ça commençait à m'agacer un peu qu'il gagne tout.
Ah, voilà.
Mais moi je dois le reconnaître, je trouvais ça insupportable. Mais c'était
que moi, non. Moi, je...
Ouais. Mais c'était tellement fascinant.
Et j'aimais bien Detlef Schrempf, et ouais, j'aimais bien cette équipe des Sonics.
Et j'ajoute quelque chose sur le double threepeat. Pour les plus jeunes qui n'ont pas vu ça, vous avez les Golden State Warriors qui sont l'équipe la plus fascinante de la décennie et de loin, ils n'ont pas réussi à gagner une fois trois titres de suite. Ça dit long aussi de la difficulté.
Personne ne l'avait fait depuis les Minneapolis Lakers, si je ne dis pas de bêtises, et les Celtics de Bird, les Lakers de Magic avaient gagné plus de deux titres, mais jamais deux fois de suite. Et en 92, quand les Bulls battent les Blazers en finale, Magic Johnson est consultant pour NBC. Et à la fin du dernier match, il va dire à Jordan, ça t'a paru dur de conserver ton titre. Il dit, tu vas voir qu'en gagner un troisième, ce sera 100 fois plus dur. Mais ils l'ont fait.
Ils l'ont fait.
Et deux fois.
Ce qui est marrant, c'est que Cyril et Maxime, vous raccrochez souvent ces deux dynasties à des souvenirs d'adolescence. On sent que ça joue un rôle. Martin, lui, pourra pas en dire autant.
Je l'avais vu la transition. Alors moi, ouais, non, j'ai pas 70 ans.
Mais Cyril, c'est pas un souvenir d'adolescence.
Oui, mais en fait, je vais pas faire la transition pour toi, Adrien. Mais Martin a dit quelque chose de très juste sur le côté icône pop. La boîte 70, c'est aussi ça, voilà.
Exactement, parce que moi, ça participe aussi à mes souvenirs, pas des souvenirs que j'ai vécu, mais des souvenirs de quand j'étais gamin, quand j'ouvrais des livres d'histoire, quand je m'intéressais à la Coupe du Monde, et que la première chose, en tout cas quand tu penses Coupe du Monde, la première équipe à laquelle tu penses, c'est le Brésil 70, et quasiment, quand tu penses football, la première équipe à laquelle tu penses, c'est le Brésil 70. Donc Adrien, merci pour cette titre.
Pas de quoi.
Qui n'était pas très sympathique. Non, simplement, donc c'est une... Maxime, tu parlais... à quel point c'était compliqué de cumuler trois titres consécutifs en NBA. Mais alors, deux Coupes du Monde consécutives, ça n'est jamais arrivé. Si ce n'est, trois Coupes du Monde en quatre ans, ça n'est jamais arrivé. Ce Brésil est arrivé en 58 avec zéro Coupe du Monde, donc ne pesait à rien en termes de palmarès. Et en quatre Coupes du Monde, ils sont simplement devenus le pays qui en a le plus remporté. Donc, c'est 12 ans absolument incroyables. Alors, il y a une défaite en 66 en Angleterre. Et sur ces 12 ans, il y a un fil conducteur, évidemment. Alors, il y en a presque deux. Il y en a un, c'est évidemment Pelé. Et puis, il y a Zagallo, qui était sur le terrain en 58 et qui était sur le banc en 70. C'est une équipe qui démarre en noir et blanc, en Suède, qui n'est pas favorite, puisqu'il y a l'URSS et même la Suède qui sont un peu devant. C'est une dynastie qui démarre, je dirais, le match face à l'URSS et les premières minutes de ce match-là. C'est pas le premier match de la Coupe du Monde du Brésil, mais c'est les premiers matchs en Coupe du Monde de Pelé et de Garrincha. C'est trois minutes exceptionnelles avec un but de Vava face à Yashin, un poteau de Garrincha et un poteau de Pelé. Et là, on se dit, OK, il se passe peut-être quelque chose. Et c'est une dynastie donc, qui va s'étaler jusqu'en 70 et qui va se terminer avec le but incroyable de Carlos Alberto que vous avez tous vu en finale contre l'Italie. Un but absolument iconique. Et entre les deux, c'est l'histoire, alors pas toujours linéaire, hein, mais c'est l'histoire d'un football. En fait, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ce Brésil-là a semé quelque chose pour la suite, notamment les Pays-Bas, et c'est rigolo d'ailleurs que cette dynastie se termine en 74 face aux Pays-Bas, qui sont peut-être les héritiers européens de ce football un peu total, un peu foufou, ou est-ce que c'est la fin d'un football ? Justement, la fin de ce football où tu peux faire jouer quatre numéros 10 sur le terrain, où tu as une joie, sans tomber dans la caricature du Roga Bonito, mais malgré tout, est-ce que c'est la fin ou le début de quelque chose ? C'est assez compliqué, mais en tout cas, il y a une unité entre 58 et 70, qui évidemment, parce qu'on ne peut pas parler de dynastie sans succès, ces trois Coupes du Monde, avec, c'est vrai, celle de 62 qui est un peu moins marquante parce que, elle porte avant tout le saut de Garrincha, Pelé qui se pète dès le premier match. Ce qui est intéressant, c'est aussi 70, Pelé qui revient. Parce que finalement, en 70, Pelé, c'est le petit jeune de Suède qui a ébloui la Suède, qui a ébloui le monde. En 62, il fait un match. En 66, il se fait péter aussi. Et puis, il perd au premier tour contre le Portugal. Donc finalement, en 70, l'histoire entre la Coupe du Monde et Pelé, oui, il en a gagné deux, mais ce n'est pas non plus l'icône absolue. Et cette Coupe du Monde 70 qui clôt la dynastie et qui met sous les yeux du monde peut-être la plus grande équipe de tous les temps, en tout cas sorte d'idéal comme ça qui sera plus jamais atteint mais qui en tout cas est un modèle absolu parce que c'est aussi le football en couleur, parce que c'est un football aussi qui s'internationalise. Tu parlais des Bulls, Maxime, dans les années 90, et cette Coupe du Monde avec les couleurs aussi très spéciales de cette Coupe du Monde 70, et c'est surtout une équipe absolument incroyable avec, comme je disais, Jairzinho, Gerson, Pelé. Enfin, il y a quatre numéros 10. Tu ne sais pas comment les faire jouer sur le terrain. Ce qui est rigolo aussi, c'est que c'est une équipe nationale, ce n'est pas un club. Donc, c'est pas une dynastie que tu construis, c'est des talents naturels en fait que t'as sous la main. Et peut-être qu'en club, ça aurait été compliqué de tous les faire jouer, ces mecs-là. Peut-être qu'aucun club n'aurait pris le pari de faire jouer tous ces mecs-là. Puis là, tu as Zagallo qui dit juste, en fait, c'est des génies, donc on va les mettre sur le terrain, puis on va voir ce qui se passe. Alors, il n'y avait pas que ça, il y a aussi une grosse préparation physique pour ne pas se faire avoir comme en 66. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si on retrouvera une équipe aussi baroque, parce que j'ai regardé des extraits de matchs, et il y en a des assez longs que tu peux trouver sur YouTube. Et tu te dis, mais comment ils jouent en fait ? Pelé, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Qui joue en pointe ? C'est le début aussi de…
C'est Pelé.
Voilà. Non, mais on parlait de Guardiola, du faux avant-centre, mais là, il n'y a pas d'avant-centre non plus. En fait, tu as des mecs qui jouent de partout. Alors, tu as Jairzinho qui, pour le coup, lui, est plutôt sur son côté. Mais sinon, on a une espèce de balai comme ça, incroyable. Et ce qui est fort, c'est que tu termines. En fait, c'est la conclusion parfaite aussi. Tu termines face à l'Italie, le Catenaccio, une équipe qui est sortie des poules, qui n'a marqué qu'un but, mais qui en a encaissé zéro et qui est complètement soufflée. En finale par ce Brésil-là, et ça se termine là-dessus, le dernier match de Pelé. Enfin bref, là, il y a une légende, il y a des histoires, il y a un héros, il y a un mythe. En plus, quand tu ne l'as pas connu, c'est encore plus mythique, je serais tenté de dire. Donc, pour moi, c'est tous les ingrédients sont réunis. Quoi.
Bon.
Ça a été dit et bien dit. Moi, il y a peut-être une limite pour moi dans la notion de dynastie avec le Brésil. Parce que finalement, à part Pelé, alors oui, il y a Mario Zagallo, mais Pelé est le seul point commun entre ces trois équipes. Et je pense que ce sont quand même trois équipes très différentes. Et si je prends par exemple le cas du Barça dont Cyril nous a parlé, il ne parle pas du tout de la victoire en Ligue des Champions en 2006. Le FC Barcelone est quand même déjà champion d'Europe juste une poignée d'années avant le début de la dynastie dont nous a parlé Cyril. Est-ce que des titres suffisent à donner une cohérence à une dynastie, je ne sais pas. Après, c'est le Brésil. Voilà. C'est même pas une équipe, finalement, parce qu'on ne peut pas parler d'une équipe à cheval sur 12 ans, tellement elle a changé. D'ailleurs, c'est le Brésil de Pelé en 70, mais ce n'est pas le Brésil de Pelé en 58, même s'il se révèle à 17 ans, qu'il fait une formidable Coupe du Monde. C'est plus le Brésil de Didi, de Vava et de Garrincha que celui de Pelé. Donc, voilà, moi, c'est la petite limite que je mettrais par rapport à cette notion de dynastie.
Mais c'est vrai que c'est là où quand même c'est le mythe du Brésil. Ouais. Le mythe de l'équipe du Brésil et jeu de
beaux jeux. On en a parlé il y a quelques temps, je crois que c'était dans un précédent épisode avec Shérif Guémour, quand on a parlé de Pelé, de Maradona. Et c'est un double mythe. C'est le mythe du Joga Bonito, du jeu brésilien, du football brésilien et du Brésil qui gagne. Et ce double mythe, il naît en 1958 parce qu'il faut se rappeler quand même qu'avant 58, au Brésil, tout le monde considère que ce sont des losers. Il y a le traumatisme du Maracanazo. Tout le monde est persuadé qu'ils n'arriveront jamais à être champions du monde parce qu'ils ne savent pas gagner. Et en 58, ils gagnent en mettant 3-4 buts par match. Et c'est vraiment ce double mythe. Et à mon avis, comme je l'avais dit... Il est mort en 70 parce que depuis, soit ils ont gagné, mais sans l'esprit du football brésilien, soit ils ont eu cet esprit-là, plus que jamais en 1982, mais sans arriver à aller au bout. Donc en ça, c'est la dynastie du Brésil qui joue bien, et plus que bien même, et qui gagne.
Non, c'est fascinant parce que voilà, Martin l'a dit, 2 Coupes du Monde de suite, 3 sur 4 compètes. Dans l'histoire du foot, il y a très peu d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir au moins espéré faire pareil. Il y a l'Italie 34-38, mais bon, la Coupe du Monde 42 n'a pas eu lieu pour les raisons qu'on sait, et qui aurait pu beaucoup être une vraie dynastie, celle-là. Mais après, à part le Brésil, oui, il y a, derrière, c'est compliqué. L'Allemagne de l'Ouest qui fait 3 finales de suite, qui en gagne une quand même. Il y a le Brésil qui fait 3 finales de suite, qui en gagne 2 sur 3, mais c'est toujours très compliqué. Et moi, ce que j'aime avec le Brésil, au fond, alors c'est très caricatural ce que je vais dire, c'est que j'ai l'impression, et ça correspond un peu à ce que dit Martin, c'est que c'est la seule équipe dans l'histoire du foot pour moi, club et sélection réunie, qui peut quasiment gagner sur son seul pouvoir offensif. C'est-à-dire que c'est caricatural de dire qu'il n'y a pas de défense, parce que ce n'est pas vrai. Les dernières équipes brésiliennes de 2002, il y avait une défense, elle est très bien, etc. Sur 94, on n'en parle pas, parce qu'évidemment, c'était quand même complètement l'inverse. Mais il y a ce côté, comme tu dis, on va laisser parler les artistes. On va laisser leur chance, on va y aller, on va tenter d'y aller. Et force est de constater, notamment qu'en 70, c'est passé comme ça, dans cette Coupe du Monde qui est, voilà, tu l'as dit Martin, ce qui relève encore plus, C'est les couleurs, c'est la télé couleur déjà. C'est le Mexique. Alors, Mexique 86 et Mexique 70, c'est les Coupes du Monde sans doute les plus télégéniques. Il y a une lumière qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vous ajoutez ça avec le maillot jaune du Brésil, plus Pelé, et vous avez le cocktail parfait pour créer des souvenirs impérissables.
Le contre-exemple juste de ça, de ce que tu dis, Maxime, c'est 82. Ouais. Ils ont cru, à tort, que leur pouvoir offensif, qui est peut-être le plus grand de l'histoire du football brésilien, alors qu'ils n'ont pas d'avant-centre, hein. Ils n'ont pas de neuf. C'est Serginho qui est vraiment un sous-Fred. Et, sauf que là, ils se sont rendus compte que jouer avec des latéraux qui étaient des ailiers comme Junior, sans milieu défensif, avec que des joueurs aspirés vers l'avant, y compris Cerezo et Falcao, qui étaient censés être les milieux les plus défensifs, ça avait ses limites. Et le drame du football brésilien, et pas de la Seleção de 82, c'est que l'équipe de Socrates et de Zico n'ait pas été championne du monde. Parce qu'à partir de là, et avec la deuxième lame en 86 contre la France, même si elle est un peu plus bodybuildée, un peu moins romantique, elle reste très agréable à voir jouer. Avec les deux échecs de Télé Santana, ils se sont dit, bon, maintenant, si on veut gagner, il faut qu'on oublie ce qu'on est et qu'on passe à autre chose. Oui. Donc, et ça, c'est pour moi le drame du football brésilien. Ils gagneront peut-être d'autres Coupes du Monde. En revanche, je pense que le football brésilien, tel qu'on l'a évoqué avec le Brésil des années 58-70, il est pour moi définitivement mort.
Mais c'est peut-être aussi l'idée d'un football enlevé comme ça. La Hongrie et les Pays-Bas, qui représentaient aussi un peu ce même mythe-là, n'ont jamais gagné de Coupe du Monde. Et peut-être qu'avec le Brésil 70, c'est aussi ce football. Je me posais la question, moi, de savoir est-ce
que le Brésil 70, c'est vraiment la conjonction des deux.
Voilà. Ça, ouais. Mais est-ce qu'on a semé quelque chose ou est-ce qu'on a clos une époque?
De manière globale pour le football, je ne sais pas. En revanche, pour le football brésilien,
oui, pour le Brésil,
c'est sûr que 82-86, c'est une césure définitive. Et regardez les équipes qu'ils ont derrière, en 90 en Italie et en 94 aux États-Unis. Alors après, il y a eu des joueurs comme Ronaldo. Oui. Parfois, ils vont être sublimés par un joueur. Mais il n'en reste pas moins qu'ils se sont assis sur ce qu'ils étaient. Et pour moi, on continue de parler du football brésilien alors que ça n'a plus aucun sens pour moi.
Symbole
on ne peut pas parler de football brésilien, pas plus qu'on parle de football français, italien ou espagnol.
Et 94 est un bon symbole parce que voilà, ils gagnent enfin une nouvelle Coupe du Monde, la quatrième après 24 ans d'attente. Et pour caricaturer, alors on parle de Bebeto Romário, mais cette Coupe du Monde-là, ça démarre en étant l'équipe de Rai, ça se termine en étant l'équipe de Dunga. Donc voilà, la bascule, elle existe pendant même Coupe du Monde et on arrive vraiment à ce Brésil réaliste finalement.
Et t'as 2002 quand même avec Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo.
Oui mais c'est très très loin en termes d'identité de jeu. C'est des années-lumière de ce que le Brésil a apporté.
Et tu rajoutes, t'as les 4 avec Juninho en plus, et tu rajoutes Ronaldinho, etc. Mais derrière, t'as une défense qui est quand même ultra solide. Et finalement, c'est un super Brésil parce qu'elle a cet équilibre, on va dire, entre une force offensive d'exception avec évidemment Ronaldo qui te revient, et derrière quand même des mecs assez solides.
À vous entendre, on a presque l'impression que le jeu est plus important que les titres dans une dynastie. Si je parle du Barça de Guardiola et du Brésil,
Tu as les deux. Non, il faut les deux.
Il faut les deux. Mais presque à vous entendre, le jeu est plus important. Et ça me fait penser à ce que nous disait Martin, je ne sais pas si tu te souviens, Christian Gourcuff, quand on était allé le voir à Nantes. On lui avait demandé qu'est-ce qu'il préférait comme laisser comme empreinte, les titres ou le jeu. Il avait dit le jeu sans aucun doute.
Bah oui, mais le problème c'est que Gourcuff il a pas les titres, c'est aussi ça, c'est pour ça.
Non, mais je pense que tu as du mal à laisser.
Ah oui, c'est
compliqué. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous vous rappellerez plus du Barça de Guardiola ou du Zidane, du Real de Zidane?
Oui, mais le Barça de Guardiola, il y a quand même les résultats. Il faudrait trouver une équipe. Oui. Alors, le Lorient de Gourcuff, dans ce cas-là. Mais il faudrait trouver une équipe qui était toute
évidemment, faut les deux.
Il faut un minimum de résultats, en tout cas. Les Pays-Bas n'ont rien gagné de Cruyff, mais ils étaient en finale. Ils ont fait finales de Coupe du Monde, les Pays-Bas, quand même.
Tu as l'Ajax qui a gagné quelques Ligues des Champions aussi. Donc
mais le Barça,
les Pays-Bas de Cruyff, ça. Tu peux prendre la dichotomie OM 93-OM 91. L'OM 91 ne gagne pas la Ligue des Champions avec une équipe qui est fantastique et que personne n'oubliait. Mais n'empêche que j'imagine que la
part
de l'OM 93 sera un peu plus importante parce qu'elle a gagné la Ligue des Champions.
Non, mais c'est quoi un résultat?
Le Pays-Bas de Cruyff, ils ont marqué même sans titre. Ils ont marqué.
Oui, mais ils sont en finale. La Hongrie de 54, s'ils sont éliminés au premier tour, on n'en parle pas.
Oui, non, mais finale n'égale pas titre. Mais bon, quand même.
Non,
oui,
mais c'est quand même pas un résultat anodin, c'est ça que je veux
évidemment.
Dire.
Évidemment. Parlons de titre désormais avec toi, Laurent, parce que Béziers en a gagné une sacrée tripotée dans les années 70-80. C'est l'équipe peut-être la plus dominante. Alors, on s'appelle récemment, on se souvient surtout de Toulouse, hein, au rugby qui a gagné énormément de titres. Mais dans les années 70-80, Béziers, c'était phénoménal.
Oui, alors là, on ne va pas être sur des figures mythiques comme Pelé ou Michael Jordan, et ce sera beaucoup moins international que le Barça qu'a évoqué Cyril, c'est sûr. Mais pour moi, le Béziers de cette période-là, c'est la plus grande dynastie de l'histoire du sport français, quand même, tout sport confondu. En rugby, il y a eu trois dynasties en championnat de France, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu Lourdes avec 6 titres dans les années 50, il y a eu Toulouse, évidemment, entre 85 et 2001, avec 9 titres en 17 saisons. Mais Béziers, c'est 10 titres en 14 saisons. Entre 1971 et 1984, ils font 11 finales de championnat de France et ils soulèvent 10 fois le bouclier de Brennus. Donc, en termes de palmarès, pour moi, ça a quelque chose d'inégalable. D'ailleurs, quand on parle de ce Béziers, on ne dit pas le Béziers des années 70-80. On ne dit pas le Béziers de tel entraîneur ou le Béziers de tel joueur, on dit juste le grand Béziers. C'est tout, ça suffit. Et pour moi, dans toute sa simplicité, cette expression-là, elle résume à peu près tout. Donc, il y a sur ces 10 titres, il y a 3 finales qui sont plus marquantes que les autres. La première, parce qu'ils gagnent après prolongation contre Toulon et parce qu'ils finissent invaincus. Ça aussi, c'est quand même dingue. Ils n'ont pas perdu un match de toute l'année. En 78, c'est pour moi la plus belle contre Montferrand. Enfin Clermont, comme on dit maintenant, où il y a 13-9 à 8-9 minutes de la fin, c'est très serré. Montferrand a une pénalité pour revenir à 13-12. Et puis là, c'est l'orgie, 3 essais en quelques minutes, 3 essais transformés, dont un de 80 mètres sur une action dingue. Et puis la dernière en 84, parce que c'est la dernière et parce qu'elle se joue au tir au but, un truc qui est complètement inimaginable aujourd'hui. Il y avait égalité à la fin de la prolongation. Et à l'époque, on ne donnait pas la victoire à l'équipe qui avait marqué le plus d'essais ou celle qui avait eu... le moins de cartons ou je ne sais quoi. On faisait une séance de tir au but sur l'inspiration du football. Et donc, c'était un souvenir assez fort de cette finale au Parc des Princes qui était assez, assez incroyable quand même sur la forme. Alors, comme toutes les équipes qui ont dominé, c'est une équipe qui a été beaucoup jalousée, Béziers, parce qu'ils gagnaient, mais pas seulement, pour des raisons culturelles aussi. Avant l'émergence du Grand Béziers des années 70, dans les années 50, 60, la quasi-totalité des titres de champions reviennent à des clubs du Sud-Ouest. C'est Lourdes, c'est Mont-de-Marsan, Bègles, Montauban, Pau, Agen. Dax n'a jamais été champion, mais c'était quand même une place forte. Et Béziers a déplacé le curseur géographique du rugby français vers le Sud-Est. Et ça, ça a été la première révolution du club de l'Hérault. Et puis, elle a été décriée aussi, à mon avis, injustement pour son style. Béziers, c'était d'abord un pack absolument phénoménal qui ravageait tout sur son passage, avec un jeu incroyablement physique, à la limite de la violence, diront certains, mais on parlait de révolution tout à l'heure, et pour moi, vraiment, le jeu de Béziers, c'est un jeu révolutionnaire. Il est 10, 15, 20 ans en avant, c'est la première équipe de club qui a joué selon les préceptes d'aujourd'hui du professionnalisme. Il y avait la façon d'utiliser les avants, était complètement révolutionnaire. Il y avait deux maîtres mots qui étaient soutien et maîtrise et conservation du ballon, ce que toutes les équipes du monde font aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était plus un rugby d'ouverture. Donc vraiment, ils ont complètement révolutionné le jeu à ce niveau-là. Et puis, c'était injuste parce que ça reste une caricature, parce que Béziers avait aussi des arrières formidables, à commencer par son demi-mêlée, Richard Astre, qui est peut-être la... le plus beau joueur entre guillemets de cette génération, qui était, on l'appelait le petit Mozart du rugby ou le Mozart du rugby avant Richard Gasquet pour le tennis. Et il n'y avait que des internationaux partout, derrière, devant. Je crois qu'en 1977 ou 78, il y a 13 joueurs de Béziers qui vont porter au moins une fois le maillot de l'équipe de France. Ça, c'est quelque chose de complètement inimaginable aujourd'hui. Puis voilà, on est avant le rugby, c'est un rugby d'une autre époque, avant le professionnalisme, avant les Coupes d'Europe, avant les stars étrangères. Béziers, c'est 10 titres avec des gars du cru, avec beaucoup de gens qui sont nés à Béziers ou à côté de Béziers, des joueurs qui étaient très impliqués dans la vie de la cité. Ils avaient un statut amateur, alors ils étaient surtout à la fin d'ailleurs, quasiment semi-professionnels, mais c'était des gens qui avaient pour beaucoup des commerces dans la ville, qui tenaient des bars, des restaurants, des cafés. Donc, c'était, ils incarnaient leur ville au quotidien et pas seulement sur le terrain. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je trouve qui est forcément révolu aujourd'hui. Hein. Si on compare avec les grandes équipes de notre époque, le Toulon de Mourad Boudjelal, c'est formidable d'avoir Johnny Wilkinson et Tana Umaga et tous les autres, mais c'est quelque chose de complètement différent. Alors après, il faut parler des hommes. C'est des grandes figures, Béziers. À commencer par l'entraîneur Raoul Barrière, qui était surnommé le sorcier de Sauclière. J'adore les surnoms aussi de cette époque. Sauclière, c'était le nom du stade de Béziers. Et voilà, le sorcier de Sauclière, j'ai l'impression que c'est un titre de roman à la Harry Potter ou à la Stephen King. J'ai parlé de Richard Astre. Et puis, il faut citer les avants et Michel Palmier, qu'on surnommait Ramsès parce qu'il jouait toujours avec des bandages, ou la momie parce qu'il jouait toujours avec des bandages autour de la tête. J'ai peur d'en oublier beaucoup, hein, tellement il y en a eu. Il y a un joueur qui s'appelait Alain Estève qui jouait deuxième ligne. Et il y a un journal anglais, je crois que c'était le Sunday Times, qui il y a quelques années, mais pas très longtemps, a fait un top 10 des joueurs français les plus effrayants de l'histoire des Bleus. Dans ces 10, il y a 3 avants du Grand Béziers, dont Alain Estève. Et il y a une anecdote assez géniale à propos d'Estève qui montre bien ce qu'il était. C'est le talonneur de la grande équipe du Pays de Galles, Bobby Windsor, les Gallois des années 70, qui disait que c'est le joueur qui lui a fait le plus mal, y compris au sens propre. Et un jour, il dit « j'en avais tellement marre de prendre des coups dans les côtes, etc. » que je le vois par terre, il est allongé après un regroupement, et il décide de lui mettre un énorme coup de pied en pleine face, quoi, en pleine tronche. Et il lui met tout ce qu'il peut. Donc on imagine ce que ça peut faire un rugbyman, un talonneur qui vous met un coup de pompe comme ça en pleine poire. Et là, Windsor raconte que Estève se relève, et en se relevant, il fait un clin d'œil à Bobby Windsor. Et Windsor dit « il en fallait beaucoup pour me faire peur sur un terrain de rugby ». Mais il dit, quand je l'ai vu me faire un clin d'œil, je me suis dit, mais putain de merde, c'est qui ce mec, quoi. Et voilà, c'était ça le Béziers. Et il faut parler, pour finir, de la légende de ce club qui s'appelle Armand Vaquerin, qui est le seul à avoir gagné les 10 titres. Il a été de toutes les finales. C'est le seul joueur de l'histoire du championnat de France qui a 10 titres de champion de France. Et à mon avis, ce record-là, il n'est pas prêt d'être battu. Et c'est vraiment, c'est le mythe absolu. À Béziers, on dit, il y a Jean Moulin et il y a Armand Vaquerin. Jean Moulin qui est né à Béziers lui aussi. Et Vaquerin, il incarne ça. C'était un personnage absolument incroyable, un côté tête brûlée, qui n'avait peur de rien, qui aimait flirter avec le danger dans sa vie. En 77, je crois, le 15 de France fait une tournée aux États-Unis. Et Vaquerin décide de partir seul dans le Bronx en pleine nuit. Personne ne veut l'accompagner, alors qu'il n'y avait pas que des froussards, hein, dans le 15 de France. Mais personne, tout le monde lui dit, mais Armand, t'es dingue, va pas dans le Bronx en pleine nuit. Et lui, il y va. Et le Bronx dans les années 70, c'est pas le Bronx d'aujourd'hui. Il a fait la même chose à Nashville. Il est allé dans les quartiers les plus pourris en pleine nuit. Il avait besoin de ça. Il aimait ça. Un jour, quelqu'un l'a braqué. Il s'est fait braquer à Béziers. Le mec lui a pointé un revolver face à lui, et il s'est levé, il s'est approché du gars et il lui a dit, toi tu ne tireras pas, et le gars est parti. Voilà, c'était ça Armand Vaquerin, et il est mort malheureusement de façon dramatique très jeune, à 42 ans, en juillet 1993, dans un bar qui s'appelait le Bar des Amis, un bar mal nommé, dans un bar pourri, dans un quartier pourri qui n'existe plus d'ailleurs, le bar aujourd'hui. Et Vaquerin est mort en jouant à la roulette russe. Il serait allé chercher un Smith & Wesson dans la boîte à gants de sa voiture. Il a proposé à un ami de jouer à la roulette russe et il a perdu. Donc, sauf qu'on est passé de Voyage au bout de l'enfer de Cimino à Faites entrer l'accusé, parce que cette théorie de la roulette russe, elle est remise en cause aujourd'hui. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Il y a la théorie du suicide, il y a la théorie de l'assassinat, parce qu'on a découvert après sa carrière de rugbyman que Armand Vaquerin avait un côté plus sombre. Il avait été devenu dépendant à la cocaïne. Il avait des amis dans le milieu toulonnais, notamment les frères Fargette, notamment Jean-Louis Fargette, qui était le parrain du milieu toulonnais, dont on a entendu parler dans l'affaire Yann Pia. Et donc il y a beaucoup de zones d'ombre, et je conseille vraiment un podcast, un documentaire audio qui s'appelle Le Canon sur la Tempe, qui a été fait sur Nouvelles Écoutes il y a 2 ans, et qui est une enquête sur la personnalité et la mort d'Armand Vaquerin. qui a été fait par un jeune journaliste qui est originaire de Béziers, dont le père et l'oncle ont joué à Béziers après la période Vacrin. Et il est hanté depuis tout gamin. Il a connu Vacrin quand il était môme. Juste, lui, il s'en souvient pas, mais il jouait sur les genoux de Vacrin. Et il a décidé, parce qu'il devait pressentir que tout ça n'était pas clair, de mener une enquête. Et ben voilà, c'est en 6 épisodes de 3 quarts d'heure. Je vous conseille vraiment de l'écouter parce que lui s'est fait sa propre conviction. Vous la ferez peut-être. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 500 000 personnes qui sont persuadées de savoir ce qui s'est passé alors qu'ils n'y étaient pas. Et en revanche, la poignée de personnes qui étaient dans ce bar, soit elle a complètement disparu, soit elle ne veut pas parler. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de fascinant à l'image de ce personnage. Et je suis très étonné que personne n'ait encore fait une série ou un film sur la vie et la mort d'Armand Vacrin.
Il était parti vivre au Mexique même, notamment, si je ne me
trompe pas. Ouais, il était parti vivre au Mexique et... L'enquête, d'ailleurs, dans le documentaire audio, va jusqu'au Mexique et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et Vacrin, c'est l'incarnation ultime de cette équipe et de ce club.
Difficile d'enchaîner quand on parle d'un tel personnage. Ouais. Juste un chiffre, moi, qui m'avait marqué en préparant l'émission sur Béziers, pour remettre un petit peu de sportif. Le nombre de victoires consécutives à domicile. Ils ont gagné 95 matchs d'affilée à domicile entre 69 et 81.
C'est pas mal, ouais.
C'est un chiffre qui parle aussi. Que c'est,
on a dit. Non, mais ils ont battu un nombre de records incroyable, celui de la victoire la plus large, je crois que c'est 100-0 en championnat de France. Donc oui, il y avait un côté invincible avec une identité très forte. Et vraiment, oui, ça a quelque chose d'unique à l'échelle du rugby, mais même du sport français.
Non, mais ce qui est fascinant, il y a deux choses pour moi qui sont fascinantes. C'est déjà le rugby, il faut gagner une finale. C'est-à-dire qu'il faut les gagner à la suite, les finales. C'est-à-dire que c'est sur un match. Et ça rend l'exploit encore plus fort parce que tout à l'heure, on parlait du Brésil, la temporalité justement de gagner tous les 4 ans, revenir tous les 4 ans et de gagner en ayant eu 3 ans où il se passe entre guillemets rien, c'est compliqué. Mais alors là, de le faire tous les ans, et en plus, comme le disait Laurent, c'est pas le rugby d'aujourd'hui, c'est pas le rugby professionnel. Alors évidemment, c'est difficile aujourd'hui parce que tout le monde est bien préparé, mais à l'époque, on ne vous aide pas forcément à vous préparer. Lionel Messi, aujourd'hui, au football, il ne tient pas un bar tabac à la Barceloneta. Il s'entraîne tous les jours, il a une carrière complète. Et eux, on leur demandait d'avoir ça et d'être tout le temps là. Et dernière chose, c'est aussi propre au rugby. Est-ce qu'il y a le rugby ? C'est un sport qui est quand même violent, où il faut donner, on prend aussi. Et d'arriver à tenir et d'avoir une dynastie sur du rugby, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui sont aussi exigeants à ce niveau-là, au niveau physique, et réussir à tenir sur la distance. Et sur cette distance-là, c'est complètement exceptionnel.
Et ce qui est marrant, c'est que tu parlais tout à l'heure de la difficulté en NBA de faire un flip-it, et Béziers ne l'a jamais fait. Béziers, c'est très drôle, mais leurs 10 titres, c'est très linéaire, c'est 5 paires de titres. 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84. Ils n'ont jamais réussi à gagner 3 fois de suite, mais ils ont toujours fait 2-2-2-2. C'était assez marrant. Et en termes de préparation, on disait que le Béziers de cette époque-là était plus et mieux préparé que n'importe quelle équipe. Et c'est aussi en ça qu'ils ont annoncé le rugby qui allait arriver, on va dire, dans les années 90.
Alors évidemment, je le disais en introduction, il y a forcément une part de subjectivité, on ne pourra pas évoquer toutes les dynasties du sport. Si vous ne deviez en citer une, chacun, sans forcément la développer trop, une deuxième.
Bah non, mais on va révéler les secrets de fabrication du podcast, c'est qu'on devait avoir un autre invité aujourd'hui qui n'a pas pu venir, c'est Julien Pereira, il est malade. Mm-hmm. Et lui, il voulait défendre, évidemment, la Scuderia Ferrari. Donc, on peut peut-être parler un peu, pas le faire aussi bien que lui, mais au moins parler de la Scuderia Ferrari, période Michael Schumacher, évidemment, avec cette domination complètement absolue sur la F1 au début du 21e siècle.
Ben vas-y, Maxime, on peut développer quelques...
Écoute, je
te sens, vas-y, vas-y, sens. Je sens que tu as envie d'en parler.
Ne gêne pas.
Non, mais ce qui est fascinant avec Ferrari au début de cette équipe Ferrari, évidemment, c'est que, j'allais dire, on y a vu que du rouge, mais c'est un peu ça, ils ont écrasé la F1... Il y a eu Williams Renault dans les années 90 qui avait le luxe de pouvoir gagner à peu près avec n'importe quel pilote. En gros, c'était on mettait Nigel Mansell dans la voiture, ça gagnait. On mettait Prost, ça gagnait. Et on savait que Frank Williams, lui, le pilote, c'était pas sa tasse de thé.
Et McLaren avant aussi, quand même.
Et McLaren avant, ouais. Et il pouvait changer tous les ans. Il mettait Damon Hill, il mettait Villeneuve, tout le monde était champion du monde. Et puis après, Schumacher, lui, il a voulu aller chez Ferrari et il en a fait une équipe complètement imbattable. Ferrari n'avait pas gagné le titre depuis 79 avec Scheckter. Donc imaginez quand Ferrari, quand Schumacher a gagné en 2000, ça faisait plus de 20 ans pour une équipe comme ça, c'est complètement dingue. Et moi, alors évidemment, il y a la saison 2002 où ils dominent tout, où ils sont champions du monde dès juillet au Grand Prix de France. Il y a aussi Spielberg avec le scandale de Barrichello Schumacher. Et moi, j'ai envie de retenir quelque chose qui résume pour moi ce qui était la force de Ferrari, ce qui fait que ça a été une telle domination. Ça arrive un peu avant justement l'ère Ferrari, ce moment où McLaren a repris le dessus avec Hakkinen. Et quand je pense à Ferrari et Schumacher, je pense tout de suite à ce Grand Prix-là. C'est le Grand Prix de Hongrie 98, où pour moi, c'est le chef-d'œuvre de... Alors, on va critiquer parce que, évidemment, ça ne se passe pas sur la piste et du coup, ça résume aussi bien ce qu'était Ferrari. Ce Grand Prix-là, Schumacher va le gagner en n'étant pas forcément le plus fort. Tout simplement, je crois qu'il est troisième sur la grille. Il se retrouve derrière Hakkinen et Coulthard, qui à l'époque, avec McLaren, sont largement au-dessus. Il va être champion du monde deux fois, Hakkinen. Il fait un premier arrêt au stand, il est derrière Villeneuve, et là, a priori, il ne peut plus la gagner, la course, parce qu'en plus, il avait des pneus durs et il ne s'était pas bien barré. À ce moment-là, dans les stands, il y a un mec qui s'appelle Ross Brawn, qui est aussi un génie dans son genre, qui dit « on va changer de stratégie, on va passer sur trois arrêts au lieu de deux, mais toi, à toi, dans la voiture, de tout donner ce que tu as. » Schumacher, il se met en mode qualif pendant les tours qui viennent, et Schumacher finit par gagner cette course grâce aux trois arrêts. Alors, ce n'est pas spectaculaire, parce que ça ne se passe pas sur la piste, il n'y a pas des dépassements de fou, mais finalement, ça résume de ce que va être Ferrari au moment où la voiture sera parfaite, où Schumacher aussi sera au sommet de son art, c'est-à-dire une machine implacable qui va régner et rouler sur la Formule 1 comme peu avant et peu après, même si aujourd'hui, on a retrouvé évidemment un peu ça avec Hamilton et Mercedes.
Ce qui fait la grandeur de Ferrari, c'est surtout qu'on parle de Ferrari et Schumacher, qui a gagné à lui seul les 5 titres. Mercedes a gagné plus, a gagné 7 titres d'affilée, mais avec 2 pilotes, même si Hamilton a gagné la majorité, l'immense majorité. Mais il y a eu la parenthèse Rosberg qui fait, mais bon, tu avais raison de souligner aussi Mercedes, parce qu'on ne peut pas parler de dynastie en Formule 1 sans évoquer celle qui est en cours du côté de l'équipe de Toto Wolff.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur...
Bien sûr.
Oui. Toto Wolff ?
Non, pas sur Toto Wolff. Non, moi, Ferrari, alors c'est très personnel, mais moi, presque failli me détourner de la F1, je me suis vraiment beaucoup ennuyé dans ces années-là. Après 15 années de régalade avec les Prost, Senna, Mansell, et même dans les années 90, même si Williams dominait, enfin, c'était différent, puis au moins, ils avaient deux pilotes compétitifs, Williams, ce qui était... pas le cas chez Ferrari. Donc moi, j'ai vécu un peu avec la F1 ce que j'ai vécu, alors sans le côté illicite évidemment, mais avec Lance Armstrong sur le Tour de France, à la même période d'ailleurs à peu près. En revanche, je reconnais que par rapport à tout ce qu'on a dit dans cette émission, avec Ferrari, on retrouve à la fois la difficulté de la construction, parce que Schumacher avait, Maxime a raison, pas choisi la facilité en allant, en quittant Benetton où il avait été deux fois champion du monde, pour aller chez Ferrari où il y avait tout à reconstruire. Il y a Jean Todt aussi, il aurait fallu parler. Donc, il y a ce côté construction. En revanche, il y a le côté mythe aussi, parce que Ferrari, c'est un peu le Brésil à la F1, ce que le Brésil est au football. En revanche, ce qui me manque, c'est le côté, il y a les titres comme pour tous les autres, l'hégémonie durable. Mais moi, il me manque
le beau jeu.
Ouais, c'est un peu ça, ce dont Cyril a parlé. Et là, il y a la forme et le fond. Évidemment, les palmarès sont là. Ils ont tout écrasé. Schumacher a tout écrasé. Bravo. Mais j'ai presque envie de dire que Schumacher, il aurait pu être 15 fois champion du monde comme ça. Ça m'aurait toujours moins fasciné que la carrière et le pilotage d'Ayrton Senna. Alors, c'est très personnel, mais je trouve qu'il manque ça dans la domination de Ferrari. Quand même.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, et ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit depuis le début sur la domination. Et en fait, c'est très difficile, finalement, quand tu es dominant, de te faire aimer. C'est le cas de Armstrong, évidemment, on sait pourquoi ça s'est mal terminé, mais je veux dire, ce qui est fascinant dans une dynastie réussie, c'est d'avoir réussi finalement à se faire apprécier en dominant et en écrasant le reste. Voilà. Et c'est le cas du Brésil, c'est le cas du Barça, c'est le cas des Bulls. Alors, le Béziers, je n'ai pas le recul sur ça, mais il y a ce côté qui est important, je pense, pour la trace laissée, c'est d'arriver à se faire apprécier en ayant mis des raclés à tout le monde. Et ça, je pense que c'est l'accomplissement ultime. Et tu as raison sur Ferrari, c'était très difficile à la fin. Alors pour la petite anecdote, quand j'écrivais les comptes rendus F1, je viens d'un début de saison où Schumacher, je crois que c'est 2002, il gagnait tout. Bah, j'ai l'impression de faire la même chose.
Moi, j'ai couvert la F1 la saison 2002. Ce n'est pas un des plus grands souvenirs de ma carrière de journaliste, pour être honnête.
C'est un cop call.
Et Cyril, il redoublait sa cinquième pendant ça.
Très bien, messieurs. Est-ce que vous voulez ajouter un...
Ouais, nous, par contre, on dit pas si on en a...
Vas-y.
Vas-y, prends la parole.
Non, mais est-ce que... Alors, moi, si je parle de mon adolescence en foot, j'ai failli parler de l'AC Milan, qui me fascinait vraiment. Et avec ce côté, on regroupe les stars aussi, qui annonçait un peu ce qui arrivait après. Les Néerlandais du Milan AC plus les grosses stars.
Ouais, mais avec une forme d'identité aussi quand même.
Avec une forme
un peu comme le Barça, c'est pas la même, mais on parlait du Milan de Sacchi, quoi, comme on parlait du Barça de Guardiola.
Donc moi, il me fascinait. Et est-ce que une dynastie, c'est fatalement une équipe, ou est-ce que ça peut être un individu?
On va faire une émission de 2 heures. Hein.
Non, mais c'est vrai.
À qui tu penses?
Bah, je pense à Usain Bolt, par exemple. Là, il y en a des
kilotins. Je pense qu'une dynastie, pour moi, puisque ça évoque au niveau historique, ça implique quand même
un collectif,
une lignée, donc plusieurs personnes. Ouais. Mais je parlerais plus de suprématie, quoi, d'hégémonie pour des individus. Mais bah oui, c'est sûr que Bolt a bien dominé. Ouais.
Bon, bah, si on parle d'équipe, Saint-Etienne des années 70, personne n'en parle. Non,
j'en étais sûr. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. C'était très très dur de choisir. Et je suis sûr que tous ceux qui vont nous écouter vont se dire, mais pourquoi ils n'ont pas parlé de celle-ci ou celle-là? Pour vous dire, moi j'en avais 7 ou 8 dont j'aurais pu parler sans aucun problème. Et je pense que c'était le cas de mes 3 petits camarades. Donc c'est compliqué. Heureusement qu'il n'y a pas que 4 dynasties dans l'histoire du sport.
Exactement. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Ce fut intéressant, riche en anecdotes. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut messieurs.
Salut.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.